La grande voile, de forme triangulaire, s'établit le long du mât.
Débat et société.
Actualité étudiante et associative.
Du lundi au jeudi, 18h-18h30.
Voguez sur les ondes de l'information locale avec l'Optimiste.
La quasi-quotidienne de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord de l'Optimiste. Aujourd'hui au programme, nous allons voguer jusqu'à Saint-Léger-de-Linière, commune de l'agglomération angevine, qui organise ce samedi une matinée dédiée au thème de l'eau. En deuxième partie d'émission, toujours en direct dans notre studio, l'interview de membres d'Orange Platine qui co-organise avec la compagnie de théâtre angevine Les Expressos le trophée d'impro des collèges. On parlera d'éducation populaire et d'improvisation. Ajustez toutes et tous votre gilet de sauvetage. C'est parti. Selon une étude publiée dans le rapport 2020 de l'agence Eau France, seulement 11% des Français interrogés déclarent que la pollution de l'eau est le problème écologique qui leur paraît le plus préoccupant. On a pu entendre pendant la campagne présidentielle qui vient de s'écouler des messages plutôt alarmants sur la crise de l'eau qui va surgir dans les années à venir. On parle de mouvements migratoires de populations très importants, de stress hydraulique, d'inondations de manière générale. Et dans le Maine-et-Loire, c'est la commune de Saint-Léger-de-Linière qui a pris cette thématique à bras-le-corps avec une matinée donc dédiée à l'eau le 30 avril 2022 de 10h à 13h à l'espace Galilée. Au programme, la présence d'acteurs locaux comme la Fédération de la Pêche 49, mais aussi des maraîchers, le service d'assainissement des eaux d'Angers-Loire Métropole et j'en passe. Pour nous en parler, Marie-Noëlle Legentil, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes déléguée petite enfance et jeunesse à la mairie de Saint-Léger-de-Linière et avec vous, en face de vous, Brigitte Dublanc, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseillère municipale et vous avez participé à l'élaboration de ce projet. Cet événement découle de 4 matinées d'échanges qui ont eu lieu depuis la fin de l'année 2021, en novembre exactement, pour finalement arriver à une exposition qui sera organisée conjointement par des élus, des enfants et des personnes âgées. L'objectif de cette matinée, et je vous cite, c'est de faire prendre conscience aux citoyens que l'eau est un bien commun à préserver et protéger pour nos générations futures.
Oui, c'est tout à fait la thématique.
Marie-Noëlle.
Oui, donc déjà, pour vous situer un petit peu, ce projet intergénérationnel autour de l'eau a été construit grâce à des citoyens et des élus, donc bénévoles, du junior au senior. C'était des réflexions avec des professionnels, afin de construire cette exposition est basée sur 3 thématiques.
Trois thématiques sur lesquelles on va revenir juste après. Le bilan de ces 4 matinées d'échange, qu'est-ce que vous y avez fait? Comment vous avez travaillé? Je suppose que mettre en relation des personnes âgées avec des enfants, tout ça accompagné de professionnels de l'eau, ça devait être des moments aussi d'émulation intellectuelle entre vous.
Oui, tout à fait. C'était un moment tout à fait riche avec la présence de jeunes et de plus âgés qui ont, autour d'une table, réfléchi pendant tous ces ateliers à trouver des solutions, à répertorier ce qui existait déjà et à chercher des solutions.
Alors, quelles sont les solutions qui ont émergé?
Alors, avant d'arriver aux solutions, il a quand même fallu faire un constat, une situation. Et c'est vrai que nous avons eu des professionnels très riches en informations qui sont venus exposer, dont Valérie Penloux, je les cite, ça peut le faire. Donc, Valérie Penloux, donc de ALM, Coralie Debar, du syndicat.
Si syndicat veux. Mixte des Vallées Angevines et de la Rome.
Oui.
Un nom à rallonge.
Voilà. Nicolas Chattard, également référent du milieu aquatique et au Catherine. Sein du service technique.
Tout à fait. Voilà. Et de la Fédération de la pêche.
De la Fédération de la pêche du Maine-et-Loire.
Voilà, on se complète avec Brigitte. Voilà.
Et puis évidemment,
donc Catherine Chabot, donc la députée européenne, mais avant tout navigatrice, ce qui nous a permis de construire également cet atelier.
On en reparlera encore une fois juste après. Quelles sont les solutions qui ont émergé de ces 4 matinées d'échange?
Alors, il y a eu différentes solutions proposées. Donc, je ne voudrais pas tout énumérer dans le sens.
Pour les auditeurs.
Pour les auditeurs, c'est sympa. Ça serait sympa aussi d'entendre, mais c'est vrai qu'il y a des choses à découvrir sur place.
Donc, faites-nous un petit teasing, donnez-nous envie de
venir. Voilà. Donc, comment consommer autrement ça me gêne un peu. Comment consommer autrement au quotidien, le citoyen, qu'est-ce qu'il peut faire au quotidien, changer ses habitudes. On va donner l'exemple dans l'atelier process de l'eau,
du paillage.
Du paillage, voilà. Utilisation
du goutte à goutte pour arroser ses fleurs, des mousseurs pour les robinets. Voilà, toutes ces solutions qui peuvent être adaptées à chaque individu, au sein de son foyer. C'est très simple et ça permet d'économiser vraiment l'eau.
Je continue puisque vous m'avez donné la main. Également, on propose d'installer des récupérateurs d'eau de pluie, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, l'eau est une denrée quand même qu'il faut préserver. Donc, utilisons les ressources naturelles, l'eau de pluie. On montrera comment installer un récupérateur d'eau chez soi. Au niveau de la commune, on met en place des fontaines Valas, donc une dans chaque commune, pour permettre aux gens d'utiliser l'eau, remplir des gourdes, que l'on va offrir également aux citoyens pour remplacer le plastique qui est notre cheval de bataille.
À l'occasion de cette matinée, trois ateliers donc, je vais les lister, vous en avez déjà un petit peu parlé, donc on va parler de ce que vous avez appelé le process de l'eau, de manière un peu pompeuse, donc en gros c'est de la production à la consommation, mais de l'eau donc, et assainissement des eaux usées, gestion des eaux pluviales dans un premier temps. Ensuite, deuxième temps, on va parler des rivières et des fleuves qu'il faut entretenir et protéger. On va également aborder là toutes les questions autour de la pêche. Et enfin, une dernière grande partie sur la mer et les océans. Pourquoi est-ce que c'était important pour la commune de Saint-Léger-de-Linière d'organiser un événement comme celui-là avec des ateliers comme celui-là? Pourquoi est-ce que vous, ça vous tenait à cœur? Pourquoi chez vous, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur dans vos réflexions autour de cet événement?
Alors, personnellement, c'est l'envahissement du plastique dans les océans. C'est quelque chose que j'ai du mal à accepter. Et c'est vrai que si on pouvait changer nos comportements par rapport à ce plastique, qui quand même, il faut le savoir, représente 80% de la population, de la pollution des océans. Donc, c'est vrai que c'est important
de le dire. Le lapsus est rigolo, 80% de la population des océans, mais plus de plastique que de poissons.
Que de poissons.
Juste une remarque, je vous posais la question puisque je suis allé un peu voir le plan local d'urbanisme de Saint-Léger-de-Linière. La dernière inondation a eu lieu en 1983 à Saint-Léger-de-Linière. Il y a quand même très très peu de liens. Je me disais, ça se trouve, Saint-Léger-de-Linière sont sur la Loire, directement impliqués par les problématiques des inondations, etc. Finalement, c'est juste une initiative citoyenne.
C'est ça. Je crois que dans le cadre de la fête de l'environnement, Marie-Noël a trouvé bien d'initier ce projet autour de l'eau et de la préservation des océans et des rivières. Je crois que c'est parti de son idée, voilà, pour cette fête de l'environnement.
Tout à fait. Il faut savoir également, enfin, c'est pas que moi, puisque je sais que c'est quelque chose que j'ai présenté, et il y a quand même eu un engouement des élus, des personnes que je suis allée voir, des bénévoles, donc je pense que je ne suis pas toute seule. J'ai émis l'idée, mais c'est quelque chose qui a été collectif, et je veux quand même préciser. C'est vrai qu'on n'est pas au bord de la mer, même si on n'est qu'à 1h30, voire 2h maximum, c'est pas très loin, mais il faut savoir que quand même la pollution ne vient pas que des habitations près de la mer, ça vient également de la terre.
À ce propos, vous allez donc poser des plaques sur lesquelles seront inscrites « La mer commence ici ». Comme vous venez de le dire, de toute évidence, la mer ne commence pas vraiment à Saint-Léger-de-Linière. Ceci étant dit, vous allez quand même poser ces plaques à des points stratégiques de la ville. Par exemple, à côté d'une déchetterie, quels sont les points stratégiques à laquelle vous allez poser ces
plaques? Alors, nous avons négocié une dizaine de plaques avec Catherine Chabot, qui va nous les offrir. Donc, 5 dans chaque commune déléguée. Le point stratégique, c'est les points où il y a du passage, donc notamment la mairie, les écoles, les salles de sport, les commerces. Voilà, donc ça, ce sont les points stratégiques. Et la mer commence forcément par ces lieux-là parce que nous avons tous des bouches d'évacuation pluviale dans lesquelles, la plupart du temps, des choses sont jetées et qui atterrissent dans la mer.
Depuis tout à l'heure, vous citez Catherine Chabot. On va la présenter rapidement. Donc, députée européenne, membre du MoDem, le parti de François Bayrou. Cette femme, c'est une ancienne navigatrice qui a été la première femme à finir un tour du monde à la voile en solitaire, en course et sans escale, à l'occasion de... j'avais un an, à l'occasion du Vendée Globe 96-97. Elle va participer à une table ronde. La thématique de cette table ronde, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre?
Tu veux répondre?
Non, vas-y.
Donc, cette table ronde, en fait, l'objectif, c'est que chaque professionnel qui va être présent, dont Catherine Chabot également, réponde à une question du pourquoi ils sont également répondus présents, le rôle qu'ils ont tenu dans cette matinée. Voilà, donc c'est un petit peu une table ronde vraiment explicative du pourquoi de cette matinée.
La situation de l'eau en France est critique. Selon le rapport que je citais tout à l'heure, donc de l'agence Eau France qui date de 2020, 90 départements en France ont fait face à des cours d'eau en situation d'assèchement de fin mai à fin septembre 2019. Comment est-ce que la mairie de Saint-Léger, elle, lutte contre l'assèchement des cours d'eau? Est-ce qu'il y a une politique spéciale mise en place par la mairie?
Alors, déjà, par rapport à ces cours d'eau, je veux bien que tu complètes, Brigitte. Par rapport à ces cours d'eau, lors des ateliers, nous avons découvert certains cours d'eau. En tant qu'habitants de Saint-Léger-de-l'Hyères, nous ne connaissions pas tous les cours d'eau existants. Le professionnalisme de Coralie Debar nous a permis, en fait, de découvrir un petit peu l'historique de ces cours d'eau, comment aujourd'hui ils sont... comment aujourd'hui ils existent et ils vivent dans notre commune, mais surtout comment il faut les faire évoluer dans le futur.
Alors comment les faire évoluer?
Eh bien déjà, Madame Debar nous a diagnostiqué l'état de santé des cours d'eau. Elle a essayé de définir, elle nous incite à définir avec les propriétaires riverains comment retrouver la vraie fonctionnalité des cours d'eau en les nettoyant, en les épurant, en ne les détournant pas, en les laissant prendre leur lit habituel.
Et en arrêtant peut-être aussi de prélever.
De prélever et de polluer ces ruisseaux aussi.
D'une manière un peu plus politique, vous, à la mairie de Saint-Léger-de-Lignières, est-ce que ce serait toléré par les habitants de cette ville si on leur demandait, en pleine période estivale et de forte chaleur, d'arrêter d'arroser leur terrain?
C'est déjà fait, hein, quand il y a des problématiques d'eau, c'est déjà des consignes qui sont données. Après, à chacun de les appliquer.
On aura sûrement.
Voilà, mais je pense que dans le temps, c'est quelque chose qui sera fréquent et qui sera renouvelé. Hein.
Sur des plages horaires, je pense qu'on va pouvoir très rapidement commencer à avoir des plages horaires où on ne pourra pas arroser.
J'ai une dernière question à vous poser puisque le temps presse. Une petite question sous forme d'un quiz. Si vous deviez me dire, selon vous, à quoi est dédié 75% de l'eau souterraine prélevée dans les Pays de la Loire? 75% de l'eau prélevée dans les Pays de la Loire de manière souterraine est dédiée aux centrales électriques. Aux centrales électriques, pas à la consommation, pas à l'agriculture, aux centrales électriques. C'est tout notre mode de consommation énergétique qui est remis en cause. C'est un mode, c'est un système, c'est un mode de vie qu'il convient de faire évoluer pour protéger nos nappes phréatiques.
Tout à fait. Alors, on n'a pas été aussi loin dans le travail avec les bénévoles et l'exposition dans le constat. On est resté sur des gestes et des consciences à prendre au niveau citoyen. Là, on est beaucoup plus large, hein, vous allez beaucoup plus loin, on va dire... même voire politiquement. On n'a pas été aussi loin avec nos équipes de bénévoles. Aujourd'hui, c'est une prise de conscience que chacun doit avoir, qu'il faut faire attention à l'eau, peut-être changer nos habitudes, préserver et sauver nos océans à cause du plastique. Voilà, ça, c'est les citoyens.
Merci beaucoup, Marie-Noëlle Legentil. Vous êtes déléguée à la petite enfance et à la jeunesse à la mairie de Saint-Léger-de-Lignières. Merci également à vous, Brigitte Jublanc, conseillère municipale et donc membre du comité d'organisation de cette fête de l'environnement et de ce projet intergénérationnel autour de l'eau. Je le rappelle pour nos auditeurs et nos auditrices, rendez-vous ce samedi 30 avril de 10h à 13h à l'espace Galilée de Saint-Jean-de-Lignières. Tout de suite, petite pause musicale sur les ondes du Centre FM. On reste sur le thème de l'eau avec The Age of Aquarius, L'âge du Verseau en français.
We are reaching a point in which the current of Shakti is going to flow very strongly in a very unified electrical way that is going to bring about very powerful changes very rapidly. Aquarius is not a water sign. It is also a sign of the floods that are going to be poured onto the world. Vibrational frequency that is electrical and that is within the air, within the atmosphere, within the mind.
Vous êtes toujours à bord de l'Optimiste sur le 103 FM et on accueille actuellement, qui viennent de s'asseoir et de nous rejoindre autour des micros, nos partenaires d'Orange Platine dans les studios. Le 30 avril, toujours, on reste sur cette journée phare du 30 avril aujourd'hui, entre 14h et 17h30, donc juste après cette matinée de l'environnement à Saint-Léger de Linière. Cette fois, ça se passe au centre Jean Villard à Angers, le trophée impro des collèges. Alors en quelques mots, ce trophée impro permet de découvrir et de pratiquer l'improvisation théâtrale dans un objectif de vivre ensemble et d'épanouissement personnel. Je vous citais, au programme des matchs d'improvisation théâtrale, et avec nous pour en parler donc, Quentin Martineau, cofondateur et coordinateur de projet de l'association Orange Platine. Bonsoir.
Bonsoir Hugo, bonsoir à tous.
Et en face de vous, votre compère Charles-Étienne Martel, comédien de la compagnie Les Expressos et coach pour deux des équipes du Trophée. Bonsoir.
Bonsoir, merci de nous recevoir.
Quentin Martineau, chez Orange Platine, l'improvisation c'est votre truc.
Absolument.
Vous êtes des créateurs d'imprévus.
Exactement, en fait on s'intéresse à l'improvisation dans toutes ses formes, en musique, en danse et en théâtre. En fait le théâtre c'est la plus petite partie de notre travail, la majorité des choses qu'on aborde se fait plutôt en musique. Avec de la musique improvisée en collectif et autour de la danse improvisée aussi avec une ligue sur Angers qui s'appelle la LADI, la Ligue Angevine de danse improvisée, qui fait des matchs d'improvisation aussi mais en danse.
L'improvisation, c'est formidable, c'est un moyen d'expression qui permet de libérer le corps, libérer les esprits. Ceci étant dit, comment est-ce qu'on amène les enfants, et plus particulièrement les enfants du collège, qui sont dans cet âge un peu bâtard de l'adolescence, où on est un peu dans le refus de tout, comment est-ce qu'on les amène à improviser ?
Là, c'est une super question et je pense que je sais même pas si on a trouvé la réponse à ça. Mais non, mais en fait, autant pour ce qui est des adolescents ou même des adultes, quand on parle d'improvisation, la première idée, c'est de revenir au jeu, le fait de jouer, d'avoir du plaisir à s'inventer des mondes et à jouer. Les enfants, quand ils jouent avec des poupées, les ours, les jouets, peu importe, ils sont en train d'improviser. Et nous, on régresse en quelque part avec ce beau médium-là. C'est juste que ça nous permet de le faire devant des gens et on fait voyager les gens à partir de rien.
Et justement, est-ce qu'ils acceptent de régresser, ces enfants?
Bah, ça dépend des profils, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont en général un peu sur la réserve et un peu timides et du coup c'est un peu plus dur de les approcher. Il y en a au contraire qui sont totalement extravertis, qui partent dans tous les sens, qui ont justement des idées qui leur arrivent en tête à 100 à l'heure et du coup voilà, il faut réussir à mixer un peu ces deux genres de publics un peu différents.
Mais en fait, ce qui est bien, je me permets de rebondir là-dessus, ce qui est bien avec le match d'improvisation, c'est que contrairement au théâtre pur et dur, hein, l'improvisation théâtrale quelque chose de ludique et chaque joueur ou chaque joueuse va aller chercher un peu ce qu'il a envie. Il y a différents types de joueurs, des joueurs qui sont un peu plus théâtraux, hein, qui ont un aspect un peu plus théâtral, qui vont se concentrer sur la création d'histoire, et il y en a d'autres qui vont aller chercher plus ce que nous on appelle dans le milieu, dans le punch, donc avec un aspect un peu plus stand-up comique. Donc c'est plus un art fédérateur de la scène au sens large.
On est vraiment dans ce qu'on appelle grossièrement l'éducation populaire, en tout cas avec cette démarche que vous proposez.
Mais il y a un côté très strict, hein, dans le match d'improvisation, en fait, parce que quand le match d'improvisation a été inventé au Québec il y a plusieurs dizaines d'années, l'idée de base, c'était de ramener les gens vers les théâtres. Donc on a constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient dans les stades voir du hockey sur glace, hein, c'est chez moi, donc voilà, du hockey sur glace, mais le problème entre guillemets peut se placer au foot aussi, donc on s'est dit bon, ben, on va placer dans un décorum sportif un aspect théâtral,
d'autant plus que le hockey sur glace est vraiment très théâtralisé au Canada.
Oui, totalement, mais c'est réglementé, mais ça permet
le parallèle, en tout cas, à faire.
C'est ça, exactement. Est facile, oui. Que c'est facile d'aller chercher quelqu'un par le sentiment sportif et l'émotion sportive. Je pense que aujourd'hui, quand tu... c'est drôle parce qu'on est allé donner une intervention dans un collège et je suis arrivé simplement avec mes rayures d'arbitre et déjà chez certains élèves, certains enfants, juste l'aspect « Ah, il y a du foot !» Je me suis dit « Non, il y a du théâtre !» Ah, ok, il y a comme limite une simili de déception derrière. Tu dis, non, mais tu vas voir du fun, reste avec nous. Mais oui, c'est ça, en fait, le ludique devient une sorte d'apport.
Alors justement, quel est l'intérêt de faire une compétition? Qu'est-ce que ça apporte de ramener dans le système scolaire qui, en France, est vraiment compétitif, assez agressif avec ce système de notation, une mise en compétition des élèves de manière générale? À quoi ça sert de ramener cette notion de match, de premier et de deuxième, de gagnant et de perdants, les perdants?
Ça, c'est une bonne question. Ouais.
Mais en fait, c'est aussi tout l'intérêt du match. En fait, plus on pratique, plus on se rend compte que la compétition, c'est juste un apparat. Et en fait, la compétition, c'est quelque chose que les élèves, ils s'y sont confrontés tous les jours via la télé, mais aussi via ce qu'ils vivent à l'école, parce qu'ils sont mis en compétition par rapport vis-à-vis des autres, par rapport à leurs notes, etc. Et du coup, on va les emmener sur quelque chose, sur un terrain qu'ils connaissent un peu plus que celui de la compétition. Et en fait, on va voir qu'en pratiquant le match d'improvisation, au final, on va plutôt apprendre à coopérer, à faire ensemble, plutôt que justement se battre pour gagner des points. Au final, le score n'est pas si important que ça.
J'ai tendance, moi en tant que coach d'improvisation, j'ai envie de dire l'aspect sportif est surtout un accroc. Hein. C'est vraiment un angle d'entrée qui va permettre de vulgariser des aspects théâtraux, des aspects qui autour de la mise en scène et surtout qui va être motivateur en fait et qui chez certains élèves ils ont besoin surtout chez les ados au sens large, hein, ils ont besoin de savoir pourquoi ils font les choses.
Ouais.
Pourquoi est-ce qu'il faut que j'apprenne ça par cœur? Pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse ça? Qu'est-ce que ça va m'amener dans la vie, etc. Et quand tu leur donnes un aspect sportif, entre guillemets, un décorum sportif, mais tu vas leur dire, ben, là-dessus, tu augmentes tes chances de marquer des points dans une sorte de compétition. Et la première chose que je dis à mes joueurs et à mes joueuses avant les compétitions, et c'est ce que je vais leur dire samedi première heure, c'est que si vous jouez pour gagner, c'est la meilleure manière de perdre. Et ça, c'est parce que ceux qui font marquer les points en match d'improvisation, c'est le public.
D'ailleurs, vous êtes arbitre.
Oui, c'est ça. Ben oui, tout à fait. Mais ceux qui la manière de procéder pour marquer des points, entre guillemets, en match d'improvisation, c'est le public qui vote. On est dans la grande démocratie. Hein. Donc là, c'est de dire, OK, le public va voter, savoir laquelle des deux équipes a fait le plus voyager, a été le plus marquant. C'est ça, a été le plus marquant. Donc maintenant, c'est de se poser la question, comment t'es marquant, en fait? Est-ce que tu fais voyager? Est-ce que tu racontes des histoires? Est-ce que t'as des personnages qui sont plus intéressants? Est-ce que t'es plus drôle? Il y a différentes manières de faire.
Vous avez une expression dans une petite vidéo promotionnelle que j'ai regardée en préparant l'interview. Vous dites, l'important, c'est de briser la barrière des idées.
Oui. Ah oui, totalement.
Qu'est-ce que ça veut dire, briser? Alors, je cite, briser les barrières d'idées.
Ben,
exactement.
En fait, quand on parle de briser la barrière des idées, c'est que déjà la première idée de la compétition, je vais vous le dire, entre vous et moi et tous ceux qui écoutent, c'est la compétition. La première chose qui est fausse. Non, c'est vrai. Là, on va rencontrer les autres. On va rencontrer dans notre ligue, on a des écoles de privées, on a des écoles publiques, des personnes qui se rencontrent,
ouais.
Des personnes qui sont de différentes origines, de différents milieux. Et ça, on est sur... déjà, on est obligé de passer cette barrière-là.
Alors justement... Les élèves viennent d'un peu partout d'Angers, dans le Maine-et-Loire de manière générale. Il y a les têtes de pioche du collège Jean Rostand à Trélazé qui remettent leur titre en jeu a priori. Ouais. Il y a aussi les flocons déjantés, collège François Rabelais, les pingouins du feu. Toujours plus incroyable.
Pingouin du feu, le retour.
Le
pingouin du feu de l'année dernière.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Non, il ne faudrait pas se méprendre. Collège Saint-Jean-de-la-Barre à Angers et les sapins pro du collège Honoré de Balzac à Saumur. Ceci étant dit, j'ai quand même vérifié, je crois, sans me tromper, qu'aucune de ces structures n'est dans un quartier prioritaire de la ville. C'est une manière d'appeler les zones les plus défavorisées sur un territoire.
Effectivement, en tout cas, pour certaines, elles ne le sont plus, parce qu'il y a eu redécoupage. Alors, on a deux collèges qui sont situés dans le quartier de Belleveille à Angers et qui sont vraiment en bordure. On a notamment le collège, justement, François Rabelais qui était inclus dans la zone d'éducation prioritaire et qui en a été enlevé. On ne peut pas juger forcément les politiques de la ville à ce regard-là, mais en tout cas le public qui fréquente justement ce collège reste un public qui mériterait justement d'être en éducation prioritaire, tout comme en fait le collège de la Barre qui est juste en face et situé aussi dans le même quartier, même si c'est un collège privé, voilà, c'est pas forcément un collège où il y a que des élèves venus de familles forcément plus aisées. Et Jean Rostand à Trélazé par contre était en REP et ils sont passés en cité éducative. Voilà, c'est tout un système de remaniement éducatif qui est un peu complexe.
Ce que vous dites depuis tout à l'heure quand même, c'est que l'important quand même, c'est que les élèves se rencontrent, travaillent entre eux, brisent justement toutes les barrières sociales et sociétales à travers de l'improvisation. Donc effectivement, pour moi, c'était aussi une question importante de savoir pourquoi... alors effectivement, ce redécoupage, on pourra le questionner, c'est pas l'objet ici, mais voilà, cette rencontre en tout cas des sociétés et des
Ben, j'irais encore plus là-dessus de dire que c'est les styles de jeu aussi qui vont varier. D'expérience, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je fais du sketch et j'ai joué dans différentes villes, même dans différents pays. On peut constater que les différentes villes, les différentes ligues, les différentes équipes ont chacune leur signature de style de jeu. Tu vas avoir des équipes qui vont être un peu plus rentre-dedans, un peu plus dans le gag. Il y en a d'autres qui vont être plus dans l'action théâtrale. Et en fait, cette rencontre-là, Le fait que tu rencontres une équipe, par exemple, tout à l'heure on parlait des Pingouins du Feu de Saint-Jean-de-la-Barre, qui ont trouvé eux-mêmes leur... je sais pas si toutes les équipes ont trouvé leur propre nom d'équipe. Hein. Et en fait, on a joué, ils ont joué contre une équipe de Caen il y a 2 semaines, et la semaine prochaine, ils vont jouer à Caen aussi. Donc il y a des rencontres comme ça qui se font, oui, dans notre ville. Mais qui se fait à travers le pays, et c'est quelque chose qui est hyper intéressant. On a joué avec justement la gang de Trélazé, on a joué à Versailles il y a quelques semaines, et il y a un de nos joueurs qui nous a dit si ça n'avait pas été du match d'impro, jamais on aurait mis les pieds ici. Avec avec sa poésie bien à lui, mais pour vous dire, c'est quand même ça permet quand même une belle ouverture. Ouais. Plus que de la rencontre, c'est culturel.
Juste un dernier mot, puisque le temps presse et on est déjà très en retard. C'est un événement ouvert au public. Quel sera le rôle du public, au-delà du vote, puisque c'est eux qui vont donner les votes? À quoi sont confrontés les enfants quand on les emmène jouer en public? Et pourquoi est-ce que c'est important que le public vienne pour les enfants à ce type d'événement? Pour les jeunes, évidemment.
Il y a un côté pédagogique, on en parlait avec Quentin l'autre jour, c'est qu'il y a un aspect pédagogique dans le fait de... les jeunes, là, sont au début de leur carrière d'improvisateur et improvisatrice. Donc, ils ont besoin de savoir, d'apprendre qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, dans tous les sens du terme. De sorte que de dire, OK, il y en a qui vont aller faire du gag, et qui ont l'impression que c'est la bonne manière de fonctionner. Et le public, là, il y a un rôle pédagogique là-dedans. Et c'est hyper important, en plus d'être, on va se le dire, d'être un super show à voir.
Eh bien, rendez-vous le 30 avril au Centre Jean Villard à Angers pour assister à ce trophée impro des collèges. Merci beaucoup Quentin Martineau, je rappelle, cofondateur et coordinateur du projet à l'association Orange Platine. Merci beaucoup.
Merci.
Merci également Charles-Étienne Marcel, comédien de la compagnie Les Expressos et coach pour 2 des 4 équipes du trophée.
Merci beaucoup.
C'est la fin de cet optimiste. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir au programme sur votre 103 FM Technis et Coinc Somatique pour votre soirée techno. Bon week-end à l'écoute de Radio Campus Angers. Nous, on se retrouve lundi. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Vous pouvez réécouter l'émission sur le 3W. RadioCampusAngers.com